Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à un autre épisode de Ciné Histoire. La semaine dernière, on a fait relâche, mais le cinéma, lui, ne l'a pas fait parce qu'il y avait notamment la sortie du, je crois, très attendu Comte de Monte Cristo, qui a quand même fait un tabac en France, beaucoup d'entrées, très belle réception critique. Il faisait finalement sa sortie au Québec la semaine dernière. Et puis, je rappelle aussi que le film avait gagné le prix du public au festival Fantasia, ou en fait le prix Cheval Noir, pardon, pas le prix du public, le prix Cheval Noir à Fantasia. Donc, il était très, très attendu et le public a été au rendez-vous, je crois. Puis, je n'ai que des bons échos. C'est sorti la semaine dernière, donc on a quand même plusieurs nouveautés à vous jaser, mais je voulais faire un petit topo sur ce film-là d'entrée de jeu. Je vous parle un peu, en fait, du plan de l'émission. Ça va être une grosse émission d'entrevue, en fait, parce que la semaine dernière, on a eu la chance de s'entretenir, Yannick Pinard et moi, avec l'équipe du film Ababouiné, qui fait sa sortie officielle donc cette semaine. Nouveau film d'André Forcier. On a eu la chance de parler au réalisateur. On a eu la chance de parler à Rémi Gérard également et Donald Pilon, donc qui font partie de cette distribution. Donc, on va vous faire jouer ça vers midi 15 aujourd'hui. Puis, on va également vous faire jouer les entrevues que j'ai réalisées avec l'équipe de Jour de chasse. Donc, Annick Blanc, la réalisatrice, ainsi que Maria Gracia Turgeon, donc cherbrookoise, qui est productrice également du film. Le film qui était en projection avec questions et réponses samedi dernier. Donc, j'ai pu leur jaser à la Maison du cinéma. Donc, on aura ça, en fait, un peu plus tard à l'émission. Mais je veux parler de ces deux nouveautés-là, puis des deux autres là, que je n'ai pas vues encore, là, mais qui prennent l'affiche cette semaine aussi à la Maison du cinéma, notamment un documentaire, donc Any Other Way, de Jackie Chan's Story, ainsi que le premier long-métrage, en fait, de Zoe Kravitz, Blink Twice, avec son copain du moment, donc Channing Tatum. Le film a eu une très bonne réception critique. Je ne l'ai pas vu, malheureusement. Je ne peux pas vous en parler tout de suite, mais ces deux films-là sortent, tout comme Ababouiné, donc que j'ai mentionné, donc le nouveau long métrage d'André Forcier. Si vous ne connaissez pas André Forcier, là, il est souvent décrit comme le Fellini québécois, en fait, des films qui allient, on va dire, la fantaisie, la réalité, quoi. Un film qui commence sous un fond de réalité et qui se transforme en réalisme magique. Donc, souvent des fables aussi qu'il va nous dresser. Là, cette fois, dans son nouveau projet, son 16e long métrage, il nous replonge, en fait, dans le Québec de la fin de la Grande Noirceur. Donc, vraiment au début des balbutiements de la Révolution tranquille en 1958. Il campe, en fait, une belle brochette de personnages, un peu comme je sais pas, le parallèle va être peut-être un peu boiteux, mais avec les belles-sœurs et tout, là, il recrée en fait une espèce de communauté dans le Faubourg Amelas à Montréal. Puis, évidemment, toute besoin des artistes se trouve dans ce film-là. Oui, il y a Rémi Gérard, que j'ai mentionné, Donald Pilon. Il y a Éric Bruno, il y a Réal Bossé. Bref, il y a vraiment beaucoup d'acteurs et d'actrices. Pascal Montpetit, d'ailleurs, là, qui joue un très, très beau rôle. C'est ça, il nous plonge en fait dans un récit d'une maison d'édition qui veut publier un livre de mots inventés ou de mots joual, en fait, parce qu'on comprend assez vite que oui, il y a certaines expressions qu'on utilise, mais il y en a d'autres qui sont inventées aussi par le film. Et puis, on est à l'époque, là, si on se rappelle, entre guillemets, il n'y a pas beaucoup de gens nécessairement qui se rappellent de cette époque-là, mais comme c'était une époque où le Québec était évidemment très catholique, le catholicisme était dans l'éducation, dans le système de justice, dans le gouvernement même, donc c'est un peu une forme de rébellion donc, de cette maison d'édition-là qui publie les pamphlets catholiques, mais qui publie aussi ce livre-là, ce recueil de mots, et puis qui s'attaque un peu aux français traditionnels, ou plutôt aux valeurs traditionnelles québécoises à l'époque, pour en proposer une plus locale, plus moderne, plus au goût du jour. Donc, il y a vraiment tout ça. Il y a aussi des réflexions assez intéressantes un peu sur le Québec laïque et sur comment sortir la religion de nos institutions décisionnelles. Il y a certaines critiques, oui, dans le film, mais le but du film n'est pas nécessairement de critiquer. Le film est vraiment très... je n'ai pas vraiment le mot. La traduction littérale serait « joueur » ou quelque chose comme ça, mais « playful ». C'est vraiment très ludique comme film, comme expérience. Ce n'est pas nécessairement mon genre d'humour, mais je vois que c'est très, très drôle et c'est surtout porteur d'espoir. Moi, j'avais très peur avec notamment Denis Arcand l'année dernière qui nous avait offert « Testament ». J'avais très peur qu'on tombe. Tu sais, André Forcier, c'est un réalisateur, évidemment, des débuts du cinéma québécois. Il est quand même assez âgé, là, fin 70, début 80, je ne sais plus exactement. Mais est-ce qu'il allait être aussi cynique que son comparse Denis Arcand? Ben non, pas du tout. C'est vraiment très porteur d'espoir, j'ai trouvé ce film. Et c'est vraiment... il faut aimer... je ne sais pas comment dire, mais la fantaisie. Comme je vous disais, là, c'est le Fellini québécois. Donc, il y a. C'est surjoué, mais c'est voulu. C'est fabriqué, mais en même temps réaliste. Là. On voit des personnages historiques, mais qui n'agissent pas nécessairement comme ils étaient dans la réalité. Écoutez, il y a le cœur du frère André qui parle aussi là-dedans. T'sais, il y a beaucoup de fantaisie, donc il faut aimer cet aspect ludique-là, je crois, pour vraiment l'apprécier. Mais globalement, je trouve que c'est... André Forcier est pas mal le seul au Québec à faire ce type de cinéma-là. Tu sais, c'est comparable peut-être aux États-Unis. Ce serait, je sais pas, peut-être Wes Anderson. C'est pas exactement la même visée, mais tu sais, il y a juste un Wes Anderson aux États-Unis. Ben, il y a juste un André Forcier au Québec. Et puis, si vous avez vu ses précédents films, je sais pas moi, L'eau chaude, l'eau frette, Au clair de la lune, qui est pas mal considéré comme son meilleur film. Plus récemment, Les fleurs oubliées, Les États-Unis d'Albert. Bref, c'est ça, il sort vraiment un peu des cadres traditionnels du storytelling québécois. Et il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, j'ai particulièrement aimé. Donc, c'est une offre assez rafraîchissante dans ce qui est offert en fait de cinéma québécois ou même de cinéma tout court. C'est ça, réflexion intéressante un peu sur la laïcité, sur l'évolution de la langue et puis sur la jeunesse aussi. C'est un coming of age, deux acteurs non professionnels là, qui occupent les rôles principaux. Donc, avec tout ça, on recrée un peu cette vie de quartier-là des années 50 du Faubourg Amelin. Puis c'est très beau aussi visuellement, c'est très esthétique. On a vraiment travaillé sur les décors et puis sur la signature visuelle vraiment particulière là, de la caméra. Donc pour vrai, c'est vraiment rafraîchissant comme film. Je vous invite à aller le voir si c'est pas déjà fait parce que, comme je vous le disais, l'équipe du film était en avant-première là, la semaine dernière. Donc vous avez peut-être déjà vu le film. Sinon, ben, allez le voir, il prend l'affiche aujourd'hui à la Maison du cinéma. Et puis, on va aller écouter justement les entrevues que j'ai réalisées. Donc, en rafale, ce sera avec André Forcier, Rémi Gérard et Donald Pilon. On commence tout de suite, cependant, avec un petit bloc de pub et au retour, on pourra entendre ces entrevues.
Un jour, je vais faire un film. Je ferai la prise de son. La réalisation.
Donc, on a l'immense honneur de recevoir aujourd'hui à l'émission André Forcier qui vient présenter son nouveau film à Sherbrooke, à Babouiné. Bonjour André, ça va bien?
Oui, ça va pas pire, oui.
Félicitations pour ce nouveau film, un 16e long métrage, je crois.
17e, ouais. Ben, j'en sors un 17e que j'ai co-réalisé avec Jean-Marc Roy qui s'appelle Ville-Jean Carton, qui est un documentaire fiction. Mais là, on est là pour parler de Babouiné.
Oui. On en parlera peut-être un petit peu quand même. Votre nouveau film, dans le fond, aborde, entre autres, en fait, la question de la langue. Hein. C'est vraiment au cœur du film. La beauté de la langue, l'évolution de la langue. Pourquoi avoir fait un film sur ça? Qu'est-ce qui vous a donné cette idée?
En fait, ça porte sur la langue de façon importante, mais ça porte aussi sur la laïcité. Au cœur du film, t'as un pamphlet qui s'appelle « Vive le Québec laïque » et qui est édité par Archange Saint-Amour, interprété par Gaston Lepage. Et le film commence sur un petit gars qui s'appelle Michel Paquette, interprété par Rémi Bridau, qui est un jeune acteur assez foudroyant, à mon avis, de même que tous les jeunes acteurs qui jouent dans le film. Et puis, c'est ça, ils vont imprimer ensemble parce que l'éditeur souffre de Parkinson, le petit gars a la polio, alors c'est deux infirmes qui vont se retrouver, puis le petit gars va apprendre le métier de typographe, en typographiant notamment « Vive le Québec laïque », qui est un pamphlet qui va faire scandale. Puis la langue, ben, j'aime la langue française et puis j'aime que les dialogues soient lumineux. Et puis c'est l'objet d'un professeur de français qui est en train de colliger un dictionnaire, un glossaire de mots oubliés et inventés. C'est joué par Martin Dubreuil. Et puis, ce pamphlet-là va faire scandale, de sorte que il y a une gang de jeunes qui vont se rebeller contre l'Église catholique qui dominait tout à cette époque-là au Québec.
À travers, justement, ce parcours-là de la langue, la religion, et le choix, justement, du cardinal Mador, qui est joué par Rémi Girard, est-ce qu'on cible un petit peu, peut-être, le cardinal Villeneuve à l'époque? Est-ce qu'on cible, justement, les relents du duplessisme, là, fin des années 50?
En fait, Rémi avait joué dans un film qui s'appelle « Je me souviens ». Il avait joué le personnage d'un évêque, c'est Monseigneur Mador, qui était le confesseur de Duplessis. Et puis là, je l'ai upgradé. J'en ai fait un cardinal à Montréal. Mais un cardinal assez orgueilleux qui s'entoure de vrais zouaves, là, les mêmes zouaves que le pape. Oh.
Ouais, ouais, ouais.
C'est ça.
Puis qui a une très belle chimie d'ailleurs avec Éric
Éric Bruno. Bruno, oui. Ils sont assez drôles.
Ouais,
là,
ouais, ouais. Ouais. Si on revient peut-être à. Pas nécessairement, ben, à l'objectif peut-être du film, parce que on campe ben, vers la fin de la Grande Noirceur, les débuts tranquilles de la Révolution tranquille, justement.
Les débuts timides de la Révolution tranquille, ouais.
Est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec peut-être la situation d'aujourd'hui? Je sais pas. Est-ce qu'il y a des parallèles à faire ou si c'était vraiment de
reconstituer? Aujourd'hui, on n'est pas obligé de. On n'est pas forcé d'apprendre la religion catholique à l'école. Alors, le Québec a progressé à ce niveau-là. Mais moi, j'ai voulu quand même faire un film drôle. Moi, je trouve que le film est très drôle. On a eu une première à Fantasia. On était le film de clôture. Et ça riait. Je veux dire, un gag n'attendait pas l'autre. Je veux dire, tu perdais même un gag parce que, je veux dire... Non, les dialogues sont bien punchés, fait que j'ai voulu faire un film comique qui traite d'un sujet grave, qui porte à réflexion, c'est-à-dire la laïcisation du Québec. Ouais. Mm-hmm.
Est-ce que vous trouvez qu'il manque de poésie aujourd'hui? Est-ce que vous trouvez, vous disiez que vous vouliez des dialogues lumineux, est-ce qu'il en manque, vous croyez?
Bon, il manque de poésie partout, je pense. Et puis... Mais il y a aussi de très grands poètes au Québec. Et puis, moi, il y a toujours un livre de poésie qui traîne dans la toilette. Et puis, ce que j'aime de la poésie d'un recueil poétique, c'est que je peux le lire de façon anarchique, tu sais.
Ouais, lire les pages qu'on veut, puis se promener un peu dedans. J'en ai profité dans les derniers jours pour revisiter un peu votre filmographie, pour me promener un peu, puis je voyais effectivement, ben, je reviens toujours à la langue, là, je sais que c'est un film sur la laïcité, mais je trouvais l'élément de la langue est important parce que dans Ababouiné, en fait, c'est comme, on va dire, la rébellion du joual versus le français classique, si on veut.
Puis, en fait... Le français, il y a un français châtié qui est parlé par le clergé. Il y a un clivage entre le français que les jeunes parlent, qui est le français de 1957. Moi, j'ai 77 ans, fait que j'avais 10 ans en 1957. Et puis, j'allais passer mes fins de semaine dans le faubourg Amelas, où vivait mon grand-père Forcier, puis ma tante Maria, qui a élevé ma mère. Donc, J'ai plein de souvenirs d'enfance. Je me souviens d'avoir vu des mères de famille du haut de leur balcon crier « Chapelet, chapelet ». J'ai rien inventé, moi. J'ai pas d'imagination. J'ai absolument rien inventé. J'ai tout mis ça bout à bout, puis ça a fait un film drôle.
Et à travers tout ça, on voit aussi un beau clin d'œil à l'époque des Royaux de Montréal.
Oui, avec... ouais, absolument, parce que j'allais voir les Royaux. Ma mère me donnait un billet d'autobus, deux billets d'autobus, puis 50 cents. Puis j'allais voir les Royaux, j'avais 9 ans. Puis je prenais l'autobus à Greenfield Park, puis après, j'allais voir les Royaux, oui.
Le baseball joue quand même une place intéressante. On va se souhaiter le retour du baseball un jour à Montréal.
Ça arrivera probablement jamais, mais Montréal est une ville de baseball. Oui.
Je voulais voir, parce que c'est pas... Depuis le milieu des années 2000, à peu près, vous travaillez beaucoup avec des membres de votre famille, soit à l'écriture ou à la co-réalisation.
Dans la production, d'abord, il y a ma femme Linda Pinet, et puis qui a produit plusieurs de mes films, qui a écrit plusieurs de mes films. Celui-ci a été écrit avec mes deux fils, mon cousin Jean Boileau, et puis Laurie Perron, qui est la mère de mes petits-enfants. J'ai deux petits-enfants.
Est-ce que c'est plus simple ou plus difficile de travailler avec la famille?
C'est jamais trop simple d'écrire, mais on met beaucoup de travail à arriver à une structure qui tienne. Quand la structure est bonne, les dialogues tiennent. Et puis, parfois, la structure éclate un peu pendant l'écriture. C'est bon ou ça peut être mauvais, on s'en rend compte deux jours après.
Est-ce qu'ils partagent un peu, parce que quand on regarde justement votre filmographie, beaucoup de réalisme magique ou en tout cas un peu de fantaisie, qui est quand même assez rare dans le cinéma québécois, est-ce qu'ils partagent un peu cette fantaisie-là ou même l'optimisme qui est quand même présent dans Ababouiné?
Ben, ils ont baigné là-dedans, là, tu sais, dans mes folies, pendant qu'ils étaient jeunes. Je pense que ça détaille. Mes fils sont pas mal flyés.
En terminant, on souhaite évidemment le meilleur des succès à Ababouiné, qui était en avant-première ici à Sherbrooke.
Dites-leur que c'est drôle, hein?
Oui.
C'est calissement drôle.
André Forcier, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
C'est un plaisir, monsieur.
Un jour, je vais faire un film. J'ai déjà écrit le script. Et dans le scénario, il n'y a pas du tout de trajet.
J'ai la chance de s'entretenir avec un monument du cinéma québécois, littéralement. Monsieur Rémi Gérard est avec nous.
Oui, un monument, oui.
Oui, oui.
Les pigeons commencent à me suivre.
Pigeons voyageurs.
Ça, c'est moins drôle.
Ben non.
Promène sur la rue, puis tes pigeons. Non.
Les pigeons des slush, ils nous lâchent pas.
Tout ça lâche pas.
Non. Pour le film Ababouiné d'André Forcier, donc vous campez le rôle du cardinal Mador, un peu petit clin d'œil au cardinal Villeneuve à l'époque. Là.
Cardinal Villeneuve, léger aussi. Il y a des côtés de cardinal léger. Tu sais, Montréal, tu t'es mis belle pour ton prince. Tu sais, genre, il se prend pas pour un 7-Up. Il se prend pour un pape, d'ailleurs. Il aimerait bien être pape.
Malgré que Pie XII fasse bien sa tête.
Oui, mais ce pauvre Mador, à cette époque-là, c'était systématiquement un Italien qui devenait pape.
Dans un restaurant italien aujourd'hui, on déroge pas de la routine.
Non. Ben, moi, c'est un personnage que je reprends, en fait, parce que, dans Je me souviens, il était Monseigneur.
Monseigneur Mador.
Il monte en échelon à chaque fois, là?
Oui. Puis il monte aussi en, comment je te dirais, en prétention.
Est-ce que pour jouer justement un tel rôle, tu sais, est-ce que c'est bien différent qu'un professeur d'histoire ou Stan, l'entraîneur des boys?
Non, c'est tout à fait différent, oui, effectivement. Mais comme je connaissais le personnage, puis c'est quand même mon quatrième film avec Marc-André, alors je connais l'univers forcier, puis... Je suis un amoureux de l'univers forcier, puis je me sens très à l'aise là-dedans, très, 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 très à l'aise. Et on s'entend bien. Donc, ouais.
Vous interprétez un peu l'antagoniste du film, vous n'êtes pas seul. Il y a aussi Éric Bruneau qui est... En fait, vous avez une drôle de relation un peu avec lui dans le film. C'est pas un rôle qu'on a l'habitude de vous voir. Habituellement, vous êtes quand même assez... attachant ou vos
oui,
rôles assez attachants? Est-ce que vous avez du plaisir à jouer des rôles de vilain?
Je déteste pas jouer le vilain. Là, je viens de faire une série en anglais à CBC sur le pensionnat de Kamloops. Et je suis le directeur du pensionnat, pédophile et tout ce que vous voulez. Et c'est un personnage très intéressant à jouer. Puis j'aime jouer ce personnage-là. Je me suis retrouvé à un moment donné dans une réunion autochtone avec tout. C'est la première production complètement autochtone au Canada. On est les deux seuls acteurs francophones, Karine Vanas et moi.
Oui, c'est Bones of Crows.
Bones of Crows.
Ouais, c'est ça, Crows, ouais. Ouais.
Ils ont fait un film aussi, puis la série. Il y a le film et la série. Et on a tourné ça à Kamloops, en l'endroit même. Dans le pensionnat même où ces événements-là se sont passés. Il est vide, il est toujours vide, puis il le garde comme ça, parce que pour les Autochtones, l'esprit des enfants habite encore le pensionnat. Fait que tu peux pas y toucher. C'est comme un mausolée, tu sais. Et on me suis retrouvé dans une soirée avec plein d'Autochtones qui étaient là, qui les ont. Puis ils m'ont dit, on est très honorés pour que... Toi, on sait, on a vu tes films, puis tout ça, puis t'es quelqu'un de très connu au Canada. On est très honoré de t'accepter de jouer le méchant dans notre film. Pour nous autres, c'est un honneur que tu nous fais. Je sais bien que ça en prend un pour le jouer, mais tu sais, je veux dire, t'aurais pu dire, ben non, moi, ce genre de personnage-là, ça m'intéresse pas. Mais effectivement, il y a une richesse dans ça, de jeu qui est incroyable.
Puis, c'est, vous l'avez mentionné, quatrième projet avec André Forcier, qui a son univers bien particulier. Comment est-ce qu'on évolue comme un acteur dans cet univers-là? On n'a pas le choix de se laisser porter par les textes, par l'énergie.
Ça nous donne une très, très grande liberté de jeu. Parce qu'on n'est pas dans le réalisme. On est dans le poétique, on est dans le surréalisme, souvent. C'est rare que tu aies un personnage avec des mains de chat, hein? Ça, c'est... Et ça marche très bien. C'est ça qui est le pire. Et on est donc dans ce jeu, ça donne des possibilités de jeu infinies. Et Marc-André aime ça, d'ailleurs. Il veut qu'on le surprenne. Il aime bien ça quand on le surprend.
Fait qu'il n'est pas nécessairement fermé ou, dans le sens... L'écriture sur papier du personnage évolue... Au fil du tournage.
Non, l'écriture, je dirais qu'il est très, très, très...
pointilleux.
Pointilleux là-dessus. Ouais.
OK. Dans l'interprétation. Vraiment.
C'est l'interprétation, okay. Ouais. Là-dedans, il nous laisse plein de marge. Il veut qu'on le surprenne. T'sais.
Comment ça s'est passé, justement, sur le plateau de tournage entre la richesse de la langue, la fermeté de l'Église, puis un peu de... d'oisiveté avec le baseball à côté. Là, comment ça se passait, justement, l'ambiance peut-être sur ce plateau-là avec
les
thèmes
acteurs non-professionnels aussi, un mélange d'acteurs très établis et non-professionnels. Comment ça coexiste? Ouais,
c'est-à-dire que moi, quand j'ai vu le film, j'étais très étonné. J'avais lu le scénario et tout ça. Mais moi, j'ai tourné principalement avec Éric Bruneau. Donc, moi, toutes les scènes au baseball puis tout ça, je les connaissais pas. C'est ça, c'est toujours la même chose dans un film. C'est que tu vois le produit fini une fois que le montage fait. Tu as lu le scénario, puis ça s'arrête là. Tu vois le film après. Et quand j'ai vu le film, j'étais bien impressionné. Pour moi, c'est un de ses meilleurs, sinon le meilleur.
Ouais. Très belle réception d'ailleurs à Fantasia un peu plus tôt ce mois-ci. Là. Vraiment, là, avec la remise du prix aussi.
Complètement hystérique. C'est très agréable, ça, quand... quand les gens embarquent comme ça dans un film.
C'est peut-être mon analyse à deux scènes. Ça vaut ce que ça vaut, mais en peu de temps, vous avez joué dans deux films, on va dire, qui questionnent peut-être en quelque sorte les valeurs traditionnelles québécoises ou son évolution dans le temps. Je parle évidemment de Testament avec Denis Arcand, puis celui-ci, à Babouiné, sur la place du français, de la religion, peu importe. Dans Testament, il y a peut-être évidemment une note de cynisme qui se trouve pas vraiment dans À Babouiné, qui est plus optimiste, si on veut, ou très, très
upbeat. À Babouiné est une comédie. C'est une comédie.
Ouais, ben, Testament aussi, mais
comédie dramatique.
Ouais, c'est ça. Êtes-vous optimiste ou pessimiste face à l'avenir, face au legs de la Révolution tranquille, peut-être?
Optimiste ou pessimiste? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Je trouve que les réseaux sociaux emmènent large maintenant. Et puis, il y a un danger là-dedans qui est... Et là, ce qui se passe aux États-Unis, là, avec Dump Trump, il aime ça donner des surnoms. Moi, je l'appelle Dump Trump, puis l'autre, je l'appelle Ellen Watermelon. Les deux, là, c'est dangereux. Là. Ils sont en train de créer un réseau de fausses nouvelles. Je ne dirais pas les hosties parce qu'on est en radio, mais je veux dire, on vit en ce moment une reprise de la droite un peu partout dans le monde. Je trouve ça incroyable quand même. Même ici, au Canada, là, c'est ça que ça en vient, là.
C'est dur d'être optimiste, effectivement.
Non, c'est très difficile. Politiquement, en tout cas, c'est difficile.
Je sais pas quel genre de vie le film va avoir non plus. Il y a déjà une très bonne réception critique. On va espérer que le plus de gens puissent le voir. De faire la tournée comme ça là, des régions québécoises, ça aide évidemment à donner à mousser justement la popularité des films. Est-ce que ça vous plaît ce genre de tournée-là?
Oui, j'aime
justement, aller
ça.
À la rencontre du public?
Oui, oui, j'aime beaucoup ça. Puis ce que je fais, moi... Souvent, je me déguise puis je m'en vais dans une séance ordinaire. Je me mets une calotte, des lunettes de soleil, puis je m'assois en arrière, puis là, je regarde.
On regarde le public.
Oui, j'écoute les réactions du public. Quoi. Et ça, je fais ça.
Je suis à peu près sûr que le film va susciter ses réactions parce qu'il est très drôle.
Pour moi, c'est un de ses plus beaux. Moi, j'ai fait mon premier film avec André, c'était...
Kalamazoo.
Ouais. Après ça, j'ai fait Je me souviens, Embrasse-moi comme je t'aime et À Babouiné.
On va s'en souhaiter une cinquième collaboration éventuellement.
Moi, n'importe quand. J'ai dit, puis, vas-tu continuer, Marc-André? Je vais pas terminer. Inquiète-toi pas, tu vas être dedans.
Avec la famille qu'il y a, ça va aider à driver.
La famille Forcier.
Ouais, c'est ça, exactement.
On est la famille Forcier.
Rémi, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui.
Ça m'a fait plaisir, les gars.
Un jour, je vais faire un film. Il ne sera pas long. Quelques petits moments. Coller les uns aux autres sans narration.
On est en présence d'un monument du cinéma québécois, Donald Pilon, qui joue dans le nouveau film d'André Forcier, À Babouiné. Bonjour, Donald, vous allez bien?
Ça va très bien, merci. Et vous autres?
Ben oui, ça va très bien.
Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis un quoi?
Un monument.
Oui, la Chapelle Brother.
Vous n'êtes pas d'accord, non?
Non, moi, je pensais que c'était pas un monument, mais là, je trouve pas le mot. Parce qu'on ne m'a pas traité de monument déjà, mais si ça me revient pendant l'entrevue...
Parfait.
Un monstre sacré, c'est-tu plus acceptable?
Parce que rendu à 107 ans, des fois, t'en as vu des petits bouts. Je vais pogner 108 mardi prochain.
C'est tout jeune?
Ça. Ah oui.
Encore joué au baseball?
Ouais, c'est ça.
Non, j'ai lâché le hockey, par exemple. J'ai lâché le hockey. Mes genoux commençaient à me lâcher.
Ah, c'est pas grave. On va pouvoir jouer dans les étoiles d'antan, je sais pas quoi, les alumni,
non,
même
moi,
pas.
Moi, c'est les boys, que tu veux.
Ah, ouais, ben oui.
Ça a pas marché.
On est évidemment à la radio, puis vous interprétez un boss de radio, un propriétaire de radio. Comment vous avez approché ce rôle-là?
Bien, le rôle, je vais dire, c'est une coïncidence, parce que moi, CKVL, ça existait CKVL à Montréal. Vous connaissez CKVL? Vous êtes jeune, mais vous... Vous avez entendu parler, c'est comme...
Bon, des bandes AM, là.
Oui. CKVL. Et puis, M. Teitelman, qui était propriétaire de CKVL, qui a été remplacé par son fils après, M. Teitelman, c'est rue Gordon à Verdun. Il m'avait appelé une journée quand moi je commençais au cinéma, mais là, ça marchait au bout, là, parce que les premiers 10 ans, moi, j'ai fait seulement du cinéma. Tu sais, je faisais des fois du long métrage en même temps, la nuit, un jour pour vrai, là, tu sais, 4-5 jours. Mais pour moi, comme je commençais là-dedans, puis c'était ma 18e job, je pensais que c'était comme ça que ça marchait, mais j'ai appris après. Alors donc, Teitelman, il m'avait appelé, M. Teitelman, pour que je le voie. Et puis, et j'étais allé le rencontrer. Et il y avait un bureau, un grand bureau, tout ça. Et là, il voulait que je fasse de la radio. Puis à un moment donné, il est monté sur son bureau. C'était un anglophone, puis il était assis. Il est monté sur son bureau. Puis je me souviendrai toujours, il disait, « Donald, je vais faire une grosse star avec toi. Une grosse star avec toi. » Fait que finalement, j'avais remplacé Serge Laprade à un moment donné, parce que j'avais dit, « Monsieur Teitelman, je vais vous rappeler, mais vraiment, je ne le savais pas, mais c'est pas quelque chose qui me tentait tant que ça. Moi, c'était le cinéma. Mais comme c'est comme ça, je connais. Puis après ça, j'ai rencontré son fils. Fait que pour moi, c'est du terrain connu. Alors donc, c'était agréable de le faire parce que c'était une époque que j'ai vécue et c'est des gens qui ont existé. D'ailleurs, il existe le fils qui est sûrement encore, vit encore, parce que je pense qu'il était plus jeune que moi. Ça ne veut pas dire qu'il est en vie, mais en tout cas.
C'est sûr qu'à 107 ans...
Oui, à 107 ans, t'en as vu.
Ouais, c'est ça.
C'est une autre collaboration avec M. Forcier. Je sais pas si vous, on les compte maintenant, mais c'est quoi la relation que vous avez avec lui, la chimie qui s'est développée au fil des ans?
Je le paye.
C'est ça le truc.
À coup de chaîne en tabarnouche, je fais des fermes avec lui. Je reçois pas une scène, mais je paye. Non, sais-tu quoi? C'est un privilège. Je suis vraiment privilégié. Moi, j'ai commencé avec Gilles Carle. J'ai travaillé avec des gens comme Denis Arcan, puis tout ça, puis les Fourniers, puis toute la gang. Et puis, c'est quand même un privilège. Tu sais, moi, j'ai un rôle, c'est un premier rôle. Si le rôle n'est pas là, il n'y a pas de film, mais quand même, c'est pas grand-chose pour moi. Ben, c'est pas grand-chose. C'est un rôle. Et puis, je vais te dire une chose, c'est que c'est de participer qui est intéressant là-dedans. Parce que faire partie d'un film de Forcier, ça fait plaisir. Ça fait plaisir.
Mais les répliques à Donald apportent toujours l'humour. Vous apportez toujours cette touche-là, puis on est capable d'aller chercher un beau fou rire.
Pas de politique dans une province catholique. C'est... ça prend pas grand-chose, mais ça prend à vous pour le dire.
C'est quoi? Déjà, écoute, il n'y a pas personne qui a vu ça, là. Mais il y a déjà une personne qui me l'a dit, c'est la rue Bernard à Outremont, à Montréal, qui a dit, il n'y a pas de police. J'ai dit, voyons, y a-tu piraté quelque chose? Non, mais il était à la première au Fantasia.
Ouais.
Ça a été une belle première. Soit dit en passant, là, je vais vous le dire, c'est pas une question que vous m'avez posée, vous allez être payé pareil.
Oui, le chèque est là.
Si vous enlève quelque chose, je vais vous rembourser. Qu'est-ce que je voulais dire? Je l'ai oublié.
Fantasia,
il a été applaudi. Écoute bien là. J'en ai vu des... Le film, ça finit. Noir. Là, le générique commence. Bien, avant que le générique commence, une fraction de seconde, debout le monde, applaudissant. La salle, tout le monde debout. C'est une shot. J'ai jamais vu ça de ma vie. Jamais vu ça de ma vie. Puis là, ils ont applaudi, puis le générique, il est quasiment aussi long que celui de Deux femmes en or. Puis Deux femmes en or, il n'est pas battable, parce que l'Union des artistes était là-dedans. Les Géraux, là, Lars Reporter avec Claude Poirier, tout le monde était là-dedans, Donald Lautrec, voulez-vous en... Michel Chartrand, il jouait un juge. Savez-vous que Michel Chartrand, il jouait un juge, puis on avait tourné une scène, la scène du juge, à la cour, où il avait passé le matin pour vrai devant un vrai juge, puis là, lui, il était assis à la place du vrai juge, puis il faisait le juge. C'est drôle, en mots, c'est
cinéma. Dans toute la justice,
moi, je veux dire, il n'y a pas d'autre métier comme ça.
Est-ce que vous l'avez reconnu, ce... Ben, je ne sais pas si vous avez grandi à Montréal, mais est-ce que vous avez reconnu cette époque-là, les fins des années 50? OK.
Fait que parlez-moi pas de Montréal, là, parce que moi, je suis né sur le plateau, puis je pense que... Les leaders qu'on a aujourd'hui, non, on n'en parle pas.
Non.
On n'en parle pas. Non, faut pas en parler.
Faut parler de la bénérie.
Les politiciens,
là.
Faut parler de la bénérie qui a déménagé.
Ben ouais.
qui était sur Mont-Royal, qui est rendu sur Saint-Denis. On ne veut pas parler de la rue Saint-Denis, on ne peut plus aller là. Il y a des couvreurs qui ne vont même plus, des gens qui travaillent. Pour vrai, ils ne vont plus parce qu'il faut qu'ils bloquent. Entre... Pourquoi est-ce qu'on est rendu là-dedans? C'est du négatif, ça, les boys. Vous me faites faire du négatif.
Mais la question
pensez
de...
positif, je suis un très mauvais exemple pour vous autres.
Non, pas du tout. Pas
pensez
du tout.
Positif. Dans la vie, mesdames et messieurs, positif. Positif, positif. Il n'y a rien de négatif. Parce que si vous allez négatif, c'est trop dangereux.
Mais à travers justement le film et la société, on aspire à la révolution tranquille dans le film. On peut penser à un Québec peut-être un jour souverain à travers justement le joual. Est-ce qu'on y croit encore à ça? Est-ce qu'on
de moins en moins. Ouais. De moins en moins, parce que, vois-tu, on est rendu dans... Quand ça a commencé, je veux dire, d'un pays, c'était un pays, puis il était... Tu sais, là, c'est mondial, là. Tu sais, ce qui se passe dans le monde, là, on y goûte toute la gang, là. Tu sais, c'est... L'Union européenne, avant, c'était tous des pays différents. Là, on est embarqué dans le même bateau, tout le monde. Alors là, les États-Unis, ça va pas bien, il faut le dire, là. Et si je passe au Moyen-Orient, il y a quelqu'un qui va me l'expliquer un jour, parce que moi, je comprends plus là, qu'il y a un génocide qui se passe, puis qu'on a, on peut pas en parler parce qu'on peut être traité de raciste et d'autres choses et tout ça. Mais il faut le vivre, puis je l'accepte, mais il faudrait qu'on m'explique. Parce que là, il y a des choses qui se passent que je comprends pas. Mais moi, quand j'étais plus jeune, comme de raison... D'habitude, moi, mon père me disait que ça avait été bien mal, lui. Puis mon grand-père, ça avait été plus mal. Mais moi, je suis pas capable de dire à mes petits-enfants que ça a été plus mal quand j'étais jeune. Parce que quand j'étais jeune, c'était la fin de la guerre. Je veux dire, moi, je suis parti du cheval puis du bogué. L'avion commençait. L'auto, ça commençait avant l'avion. Tu sais, je veux dire, moi, j'étais un gars de char automatique parce que c'est les autos. Fait que je suis un peu un Michel... Barrette, comprends-tu, mais il y en a... Tu sais, j'aime les automobiles pour... Tu sais, c'est toujours le symbole de la liberté, puis tout ça. Mais quand même, tu sais... Alors donc, puis comment... Puis je me dis, tu sais, j'arrive, moi, je travaille toute ma vie, je paye mes impôts, je paye les taxes, je paye tout ça. Là, j'arrive en fin de vie, puis on me dit, ben là, tu peux pas avoir telle auto parce que ça prend trop de gasoline. Mais par contre, moi, le gars qui est le président de Bank of America, lui, ses enfants vont à l'école en avion. Puis lui, il va luncher en avion. Puis tous les chanteurs qui ont bien de l'argent font la même chose. Et tant mieux, parce qu'ils le méritent. Mais moi, je dis, j'arrive en fin de vie. Si je veux me avoir un voilier, j'ai payé toute ma vie. Je peux pas l'avoir parce que là, y a... ça marche plus. Parce que les politiciens qui étaient là puis qui sont là aujourd'hui, ça marche pas. C'est moi qui va... C'est toujours nous qui paye pour. Alors donc, j'ai débarqué. D'ailleurs, je regarde presque plus les nouvelles. Je regarde plus les nouvelles américaines. Je veux dire, ça sert à rien. C'est décourageant.
C'est suis-yeux tous les jours, c'est ça.
Ah non, mais je regarde plus. Je regarde un poste de temps à autre. Et moi, je vais le nommer, c'est BBC. Eux autres, BBC, ils ont fait ce que Radio-Canada, excusez-moi, devait faire au début, tu sais, c'est instruire les gens, les nouvelles, tout ça, les arts, les opéras, les ci, les ça. Et ben là, c'est plus là. Tout ça.
Il reste un peu d'optimisme au moins. Non.
Mais le film, je vais dire, là, nous dit où on était et on est encore mieux aujourd'hui, c'est sûr, en regardant le film. Mais il y a d'autres choses à corriger. Il y en a toujours à corriger. Même moi, il faut que je me corrige. D'ailleurs, j'aurais pas dû être négatif. Je m'aime pas quand j'ai dit que j'étais négatif.
Ah non, on est content du temps que vous avez donné une fois de plus, M. Pilon. Là. On l'apprécie.
Merci beaucoup.
Et c'est moi qui vous remercie.
Merci beaucoup.
Merci.
Un jour, je vais faire un film. Je ferai la prise de son. La réalisation.
Je suis en présence de la réalisatrice Annick Blanc ainsi que de la productrice Maria Gracia Turgeon de Jour de chasse, l'équipe qui est de passage à Sherbrooke. Bonjour les filles, vous allez bien?
Très bien.
Ouais, allô?
Félicitations pour ce film qui, c'est ça, fait sa première ici à Sherbrooke. J'aimerais ça peut-être d'entrée de jeu, parler un peu de la genèse du projet parce que c'est pas la première fois que vous travaillez ensemble. Vous aviez déjà travaillé dans le court-métrage. Comment ça s'est transposé, peut-être, cette dynamique-là, de ce premier travail du court-métrage au long-métrage, justement?
Bien, en fait, Jour de chasse, c'est quand même un des premiers projets que j'ai lu quand on a commencé à travailler ensemble. Fait que c'est le projet sur lequel je pense qu'on travaille ensemble depuis le plus longtemps, depuis les tout débuts, en fait, de Midi la nuit. Là. Donc, on est vraiment dessus depuis, moi, depuis déjà plusieurs années, puis Annick, depuis 2011. Là. Donc, ça a été, en fait, le court-métrage qu'on a fait ensemble, Annick comme réalisatrice, est venu un peu entre-temps aussi, entre guillemets. Là. Donc, on a travaillé sur son cours, tout s'est très, très bien passé. On a continué à travailler donc ensemble la dynamique, autant au niveau de la production, la réalisation pour le long. Puis évidemment, on travaille aussi sur d'autres projets comme productrice, étant donné qu'Annick est une femme incroyable, qu'elle fait réalisatrice, scénariste et aussi productrice de ses projets et de d'autres projets.
Puis je dirais que, ben en fait, Jour de chasse, c'est vraiment le premier projet qu'on a vraiment travaillé créativement beaucoup ensemble, parce qu'on avait fait un premier court-métrage que je réalisais, qu'elle produisait, qui s'appelle « La couleur de tes lèvres ». Mais on s'était rencontrés assez tard dans ce processus-là, donc on n'avait pas eu le même essor créatif ensemble, tandis que là, vraiment, il y a eu des discussions quotidiennes ou à chaque semaine ou pendant l'écriture du scénario, puis j'ai vraiment pu profiter comme réalisatrice du talent de productrice de Maria pour me guider. Puis à un moment donné, je dirais que le projet est devenu presque autant maîtrisé que Maria par moi, donc à la fin, elle n'avait même plus besoin de lire les scènes. Je pouvais tout simplement lui dire « Bon, mettons que j'amène les personnages puis que je fais ci. » Elle était capable de me dire « Ben oui, mais peut-être si ça se passe avant. » Donc, on a eu vraiment un échange créatif vraiment super enrichissant pour moi sur ce projet-là.
Puis ça a été quoi, peut-être, la bougie d'allumage? Tu dis ça fait même un peu plus qu'une dizaine d'années là, que tu travailles sur ce projet-là. C'était quoi un peu l'objectif que tu avais derrière ce film-là? Parce que on comprend que c'est un film qui explore plusieurs thématiques, notamment, on va dire, la masculinité toxique, qui s'attaque peut-être aussi pas nécessairement au mythe, mais c'est quand même une activité qui est dans notre mémoire collective, si on veut, c'est-à-dire la chasse. Donc, c'était quoi? Est-ce que c'était de moderniser peut-être le genre? Est-ce que c'était de proposer quelque chose d'un peu plus aussi mystique, entre guillemets, parce qu'il y a ça évolue au fil du récit vers un peu de réalisme magique? C'était quoi l'objectif au départ que tu avais avec cette histoire-là?
C'est un peu tout ça, en fait. Je pense que tu l'as bien lu, le projet. Alors, au début, j'avais envie de parler de, oui, masculinité toxique, mais j'avais envie un peu de le parler à travers un personnage féminin très fort qui allait renverser cette ordre-là. Donc, oui, elle va être affectée par ça pendant un court moment, mais elle va vraiment renverser l'ordre établi. Puis j'avais envie, suite au mouvement MeToo, de montrer des personnages féminins, justement, qui n'étaient pas et seulement des victimes, sans vouloir enlever l'importance de mettre le mot « victime » sur toutes ces choses-là qui ont été vécues, mais aussi de montrer qu'on pouvait s'en sortir et se redéfinir autrement. Donc ça, c'était quelque chose dont je voulais parler, puis c'était quand même quelque chose qui faisait référence à des choses que j'avais vécues personnellement, qui étaient trop fraîches à ce moment-là, quand j'ai commencé l'écriture. Donc j'ai eu aussi envie d'amener une métaphore un petit peu plus large sur un peu ce fait que j'ai l'impression que notre société au Québec, on a tellement la chance de vivre dans un pays en paix, confortable, merveilleux, que parfois ça nous rend un peu plus inerte. On s'endort un peu, on ferme les yeux sur toutes sortes de choses qui se passent autour de nous, on se sent pas concerné. Et donc, il y a tout le thème que j'ai amené avec le personnage joué par Noubi Ndiaye qui est un peu reflet de ça. Mais pour moi, c'est un peu la même chose, puisque quand on plonge dans une relation toxique, on se ferme les yeux sur ce qu'on devrait vraiment faire, c'est-à-dire s'enfuir. Et aussi, donc, dans ce phénomène-là, de laisser les choses s'écrouler autour de nous, on devrait agir et on se bande les yeux à nouveau. Donc, c'est un peu un film sur des personnages qui se bandent les yeux. Mais effectivement, j'avais envie de parler de ces sujets qui sont sérieux, certes, qui sont profonds, mais dans le fond, j'avais envie de le faire d'une manière assez distrayante, en fait, que le public allait pas se taper une morale très moralisatrice puis juste avoir un sujet frontal, mais allait pouvoir vivre une expérience cinématographique qui allait vraiment pouvoir l'enlever. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu cette idée de mélanger les genres, d'amener de la comédie noire, d'amener de l'onirisme, des séquences de rêve, de faire une image très, très belle pour un peu ensorceler le public puis qu'il soit pas en train de penser au sujet, mais que le sujet le rattrape par après dans les discussions. Je pense que c'est ce qu'on se fait dire. Ouais. Les gens en parlent longtemps après l'avoir vu. Tu sais, ça habite souvent presque toute la nuit. J'ai quelqu'un qui m'a dit « j'ai une nuit fiévreuse ». Puis il y a quelqu'un hier qui m'a dit qu'il avait l'impression qu'il sentait la bouette. T'sais, il a vraiment senti le camp de chasse, quoi. Il s'y est plongé. Ça a été immersif pour lui. Donc, c'est ça qu'on voulait créer, en fait.
Ouais. Une expérience cinématographique, effectivement. Moi, ce qui m'avait frappé dès la bande-annonce, évidemment, c'était le visuel assez léché du film. Puis le long-métrage, au final, ne m'a pas déçu parce que j'ai été surpris à quel point c'était constamment beau. À chaque plan, vraiment, je l'ai vraiment apprécié. Puis, tu sais, il y a des effets de style aussi, des ralentis, des trucs comme ça qui viennent vraiment ajouter identité, signature visuelle vraiment particulière. Est-ce que tu l'avais en tête dès le départ du projet, ça?
Oui, pour moi, c'était important. Dans Jour de chasse, c'est des personnages qui se font ensorceler d'une certaine manière. Il y a un manipulateur qui va les entraîner vers quelque part. Et je voulais faire vivre la même chose au public, c'est-à-dire l'ensorceler, lui faire se sentir bien. On a envie d'être dans le chalet. Au début, les gars sont drôles, les gars sont le fun, l'image est belle. Donc, je voulais qu'on se sente confortable, puis que tranquillement, ben, on coule dans quelque chose de complètement inconfortable, comme c'est le cas souvent dans une relation toxique. Il y a toujours une forme de séduction au départ, évidemment, pour nous accrocher, puis ensuite, ça se dérobe sous nos pieds. Je voulais refléter ça, puis je voulais aussi que les gens puissent vivre cette expérience, ben donc, comme je disais, de manière aussi attirante. Je voulais la rendre attirante. Donc ça, ça faisait partie de ça. Mais on n'a pas juste travaillé l'image en ce sens, on a aussi travaillé le son en ce sens. La musique est extrêmement douce, on n'est pas allé dans une musique de film d'horreur, on n'est pas allé appuyer au niveau de la musique ou de l'image l'horreur l'horreur que possède le film. On voulait qu'elle reste tout simplement froide et humaine, cette horreur-là. Donc, on est vraiment allé créer plutôt des pistes de musique ensorcelantes, des choses comme ça. On a même parfois réutilisé des sons, par exemple, dans certaines scènes de voiture où il devrait y avoir des sons très, très agressants, de freins ou de choses comme ça. On a plutôt été chercher des sons de bateaux. Bateaux qui coulent, qui se renversent. Donc, on a plutôt été dans des choses, comme je dis justement, enveloppantes, mm-hmm. berçantes. C'était ouais. notre...
Puis pour créer aussi cette espèce... d'ambiance un peu bizarre là, qui évolue au fil du film. Ma prochaine question, peut-être, irait à vous deux, là, parce que, comme vous dites que vous travaillez longtemps puis sur différents aspects créatifs du film, comment vous avez assemblé cette distribution-là? Quand on fait un huis clos, surtout dans ce cas-ci où c'est important qu'il y ait quand même une certaine chimie entre la gang de gars, mais aussi avec Naima Ritchie qui arrive, comment est-ce que vous avez assemblé? Est-ce que vous aviez des noms en tête? Est-ce que vous aviez des types en tête? Comment ça s'est passé?
Ben, au niveau des types, Annick avait vraiment déjà écrit quel était son type de personnage à même le scénario. Là. Donc, on savait c'était quoi le type de personne à chercher. Il y a eu un processus de casting qui a été très, très long parce qu'en fait, le film... on a commencé le processus de casting en 2020, je crois. C'était avant pandémie... Puis, on a eu la chance quand même de sécuriser certaines personnes dans cette distribution-là qui sont vraiment restées avec nous jusqu'au tournage en 2022. Puis, c'est tous des acteurs de haut calibre qui ont reçu des grosses propositions de séries, de tout, qui tournent beaucoup, mais qui eux aussi ont été frappés par la proposition, qui ont embarqué, qui ont trippé sur le projet, puis qui sont restés avec nous du début à la fin, là.
Premier long métrage, donc, c'est pas ton premier projet. Tu avais fait trois, quatre courts métrages précédemment. Évidemment, on est un peu dans un environnement contrôlé vu que c'est un semi-huis clos. En même temps, on tourne dehors, donc c'est pas vraiment contrôlé. Ça a été quoi les défis peut-être de cette réalisation-là ou les leçons peut-être que tu vas tirer pour un prochain projet?
Le défi, c'est que c'est un faux huis clos, en fait. Ça donne l'impression d'un huis clos parce qu'on pense qu'ils sont coincés dans le même endroit. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, nos lieux extérieurs étaient très loin de nos lieux intérieurs. Ça demandait des déplacements. Mais aussi, on a toujours des équipes spéciales. On en avait presque à chaque jour parce qu'on a des cascades. On a cascades de voitures, cascades de feu. On a de la pluie. On a des animaux. Donc, il y avait toujours quelqu'un qui se joignait à nous. Et ça, c'est quand même beaucoup de gestion pour la production, d'avoir tous ces calendriers, de faire marcher les calendriers de tout le monde pour avoir ces gens-là. Puis c'était toujours des défis de tournage, ça. Mais en même temps, comment dire, j'aurais envie de dire, donc oui, qu'est-ce que j'ai appris? Ben oui, peut-être de faire des films plus simples. Mais en même temps, c'est ce qui fait la beauté et la force de Jour de chasse, puis c'est ce qui le démarque dans l'écosystème québécois. Puis donc, je pense que j'ai envie de quand même répéter l'expérience de toujours aller plus loin puis d'expérimenter un petit peu plus avec le médium cinématographique. Mais je pense que j'arriverai avec cette conscience en tête parce qu'effectivement, c'était quelque chose qui était très, très fatigant à faire face. Et peut-être moins de personnages à l'écran à la fois. Ça, c'est vraiment ce qui a été difficile, d'avoir toujours sept comédiens à surveiller, à coacher. On finissait les prises, puis là, j'avais sept premiers rôles qui sonnaient vers moi puis qui étaient comme « Alors, et moi, j'étais comme « un à la fois, j'y allais, là, comme je pouvais. »
Beaucoup de comédiens à la fois, mais en même temps, des plans très serrés, très rapprochés aussi. Fait qu'en tout cas, il y a tout ça à jongler. Maria,
Évidemment, ça fait un petit moment déjà que tu évolues dans le court-métrage. On n'a pas besoin nécessairement de mentionner tes précédents projets, qui sont allés quand même assez loin, même jusqu'aux Oscars. Cette année, deux longs-métrages, notamment avec deux personnes avec qui tu as travaillé, donc Annick et Myriam Jouba. Comment s'est passée peut-être cette transition-là entre le court et le long? C'est pas la même chose tant au niveau de l'ampleur peut-être des projets, mais après ça, de sa vie en salle versus des courts-métrages que là, c'est plus des festivals, des trucs comme ça. Comment s'est passée cette transition-là pour toi?
Ça a été une grosse transition, en fait. Ben, c'est ça, Annick et moi, on travaille sur cette transition-là depuis presque le début. Au final, là, quand on s'est associés dans la boîte, on avait des projets de court-métrage de cœur qu'on avait déjà en tête, qu'on voulait faire et tout. Mais rapidement, on savait qu'on voulait essayer de passer au long. Évidemment, c'est un chemin un petit peu plus laborieux d'aller chercher des financements pour des longs-métrages au Québec. Donc, ça a pris un petit peu plus de temps. Je pense qu'on a appris énormément là-dedans aussi parce que, bon, finalement, faire un plateau de, t'sais, entre 4 jours de tournage et entre 20 et 30 jours, dépendamment des longs-métrages. Tu sais, c'est une grosse différence, autant, je pense, au niveau de la production que la réalisation. Fait que c'est énormément d'apprentissage. Je pense que là, ce qui est le fun en ce moment, c'est l'étape où on sort le film au Québec. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'avait pas vécu au niveau du court-métrage. On les a sortis en festival, en ligne. Tu sais, je pense que là, on a fait cette portion-là. Jour de chasse est allé, donc, a sorti à South by Southwest comme première, est ensuite allé dans plein de beaux festivals. On l'a accompagné aussi à Carlo Vivari. Mais là, vraiment, de le présenter, on l'a présenté à Fantasia à Montréal. Et hier, c'est une première à Montréal aussi. Mais de le présenter comme ça au public québécois, de l'avoir en salle, puis de voir un peu, tu sais, les gens à la maison, comment reçoivent ça, puis de dire comme, c'est un film qui est présenté dans une salle, qui est quelque chose que, tu sais, les deux, depuis qu'on est jeunes, on a toujours fréquenté les salles de cinéma, on a aimé aller voir des films. Ça, je pense que c'est quand même, c'est une période assez excitante, stressante un petit peu, mais en même temps, notre boulot est fait. Donc là, c'est de s'asseoir et de voir ça, là, mais c'est super le fun. Puis ici, à Sherbrooke, à la Maison du cinéma, ben moi, j'ai grandi à Sherbrooke. Je suis toujours venue voir mes films à la Maison du cinéma, donc c'est quand même, c'est un beau petit rêve qui s'accomplit là, de venir le présenter ici. Là.
J'aime toujours ça parce que on est une émission d'histoire du cinéma aussi un peu. J'aime ça parler un peu des influences où Mediafilm a sorti il y a quelques jours, je pense, une liste de films de chasse. En général, est-ce que t'es allé piger dans d'autres films de chasse? Est-ce que t'as pas osé regarder d'autres comparable, entre guillemets, pour pas que ça influence un peu ton travail. D'un côté, peut-être des influences pour Jour de chasse, puis en général, peut-être dans ta carrière, ou s'il y a des cinéastes qui te marquent plus que d'autres, soit dans différentes sphères. Là,
Ben oui, moi, je pense que c'est extrêmement important comme cinéaste d'en regarder beaucoup, de voir qu'est-ce qui se fait. Évidemment, faut pas avoir peur de copier, faut avoir conscience de qu'est-ce qui s'offre autour de nous. Et puis c'est tellement inspirant. Donc oui, au niveau des films de chasse, évidemment la Bête lumineuse est une grosse référence dans la construction des personnages, la dynamique de meute. Ça a été une très très grande inspiration pour moi. Je pense que c'est un film que j'ai vu 5 fois. Je regarde pas nécessairement beaucoup de documentaires, mais ce documentaire-là pour moi est plus proche de la fiction presque. Il est écrit comme une fiction. Il y a cette même densité-là. On s'arrête jamais. Puis le tracé est tellement clair. Donc ça a été vraiment un film qui m'a beaucoup marqué, des personnages que j'ai beaucoup aimés. Puis une dynamique aussi de réplique au tac, en fait, qui m'a inspirée. Hein. Les dialogues sont très inspirés dans la manière de parler de la Bête lumineuse. Ensuite, il y a beaucoup de films derrière Jour de chasse, justement du fait du mélange de genres. Donc, je dirais, des fois c'est surprenant, mais je peux même nommer Michel Haneke, dans le sens que la froideur, au début, c'est quelque chose de très dynamique, qui n'est pas du tout dans ce style-là. Mais plus l'horreur des hommes se révèle, plus la caméra s'assoit, devient froide, arrête de bouger, nous montre l'horreur des hommes de la manière la plus clinique qui soit. Ça, c'est vraiment une inspiration de ce côté-là. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y en a des tonnes. J'ai regardé le côté un peu rêve éveillé. Il y avait ce très bon film anglais, Field in England, que j'aime beaucoup, qui a un petit côté sorcellerie, justement, puis un petit côté psychotrope par autre moment. Et puis ça, c'est un film qui est fascinant parce que je pense qu'il a été fait avec 500 000 euros. C'est un long métrage tourné dans un champ avec trois comédiens. Mais, et ça aussi, c'était inspirant pour moi parce que des fois, le huis clos, quand même, quand t'écris, c'est réducteur. Tu te dis, mais qu'est-ce qui peut leur arriver encore? J'ai déjà utilisé ça. Puis pour moi, c'était une inspiration, ce film-là, de voir comment il avait réussi à réinventer des scènes dans un champ. Lui, c'est un champ. Lui, c'est un réel huis clos. Il y a un champ, une tente, trois comédiens, puis des ventilateurs à un moment donné. Tout ça, ça avec quoi il fait affaire. Donc, ça, c'était une inspiration aussi. Il y en a vraiment des tonnes. Mm-hmm.
On va pouvoir observer ces inspirations-là, justement, en allant voir Jour de chasse qui est ouvert, qui est sorti en salle, en fait, vendredi dernier. Annick et Maria, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui.
Merci à toi.
Ça fait plaisir, merci.
Un jour, je vais faire un film. J'ai déjà écrit le script. Et dans le scénario, il n'y a pas du tout de tragédie.
Et voilà, c'était nos entrevues avec l'équipe d'Ababouiné et l'équipe de Jour de chasse. Jour de chasse que je vous invite à aller regarder. Pour vrai, c'est une drôle d'ambiance qui émane de ce film-là. Très, très stylé visuellement. Un des plus beaux films, pour vrai, québécois des derniers temps. Et puis, voilà, une histoire un peu... sur l'effet de groupe, sur la masculinité toxique. Bref, vraiment un film que j'ai particulièrement apprécié. Donc, allez voir ça. J'avais oublié aussi de mentionner d'entrée de jeu la sortie de The Crow, le remake donc du classique, entre guillemets, ou du cult classique des années 90 qui fait sa sortie ce week-end. Je ne l'ai pas vu encore. Les critiques sont pas si mal, mais pas non plus si élogieuses. Donc, allez vous faire votre opinion comme d'habitude. Et voilà, c'était tout pour cette émission de Ciné Histoire. On se retrouve la semaine prochaine. On aura deux chroniqueurs également qui vont nous parler de films qui leur sont chers. Et puis voilà, on va commencer aussi la programmation officielle, disons, de l'automne, la semaine le 6 septembre, je crois, là, si mes dates sont bonnes. Donc la semaine prochaine, ce sera encore un peu de revue d'actualité et nos deux chroniqueurs. Donc voilà, bon cinéma pour ce week-end. On se retrouve la semaine prochaine, même au même poste, pour un autre épisode de Ciné Histoire.